Bonjour à toutes et à tous. Autant vous dire que ce générique est parti plus vite que ce que je n'avais imaginé. Mais il n'y a pas de souci puisque nos intervenants sont déjà tous là. Je vais pas vous cacher qu'on n'a pas fait les essais de micro. Alors Nathalie, bonjour.
Bonjour, bonjour.
C'est bon, on l'entend. Pierrick.
Bonjour.
Voilà, Geneviève.
Bonjour.
Et Sarah.
Bonne année.
Ah, eh ben non, Sarah, alors Sarah, je pense que j'ai un petit problème sur le micro de Sarah,
moi, je
n'entends pas bien. Geneviève ?
Oui.
Geneviève, parfait. Sarah ?
Oui, toujours pas.
Toujours pas.
Ok.
Alors on va trouver une solution avec William, et puis de toute façon comment on va commencer avec d'abord pas vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année. Oui, j'allais dire on va commencer avec le seul garçon de la bande, à savoir notre ami Pierrick, qui nous présente deux autrices, voilà, en auto-édition. Alors, à toi la parole, Pierrick.
Oui, ce sont deux petits projets qui sont en même temps deux cris du cœur de deux autrices que je connais et à qui j'avais promis un retour. Donc, je me suis dit que c'était parfait de faire un retour public à la radio, en espérant que ce que je vais dire ne leur fasse pas trop mal. Mais comme j'ai plus ou moins que du bien à dire parce que je me suis régalé à la lecture, ça devrait passer. Et donc voilà, aujourd'hui pas de science-fiction. Aujourd'hui on est même
carrément. Ah ouais, non, mais c'est fort là. Ah oui.
Pas du tout, pas de science-fiction.
Même pas de fantasy.
Non.
Oh. Alors,
je pense que
quelle audace,
pour
Eric.
L'un des deux, on aimerait bien que ce soit de la science-fiction. Mais voilà, non, c'est des choses très concrètes. Je vais commencer par Mes confidences à la lune de Camille Guérard. Donc Camille Guérard est une jeune femme de 24 ans et elle a écrit ce texte suite à une rupture difficile. C'est vraiment un cri du cœur. On est dans un... C'est quelque chose de prose poétique, très poétique. C'est très bien écrit, c'est très beau. Et ça nous emporte dans les étapes qu'elle a dû passer pour accepter plus ou moins cette rupture dans laquelle elle avait donné beaucoup, beaucoup d'elle. Et donc, on a... voilà, du refus à l'acceptation et enfin à la libération. Il y a vraiment une évolution dans le texte. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une situation qu'on est plus ou moins tous à avoir un jour ou l'autre vécu.
Donc, c'est pas une rupture ni philosophique ni politique, c'est une rupture amoureuse.
Une rupture amoureuse, oui. Oui. Et en fait, on a le chemin de sa reconstruction, de sa libération. C'est assez beau, c'est tout petit, c'est léger, c'est vraiment très agréable, très surprenant. Ça ne fait pas du tout partie de mes lectures classiques, mais je me suis régalé à le lire.
Donc, question, comment t'es arrivé dessus, même si tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure?
Alors, en fait, avec des amis, on organise un petit festival de musique dans le Tarn-et-Garonne tous les ans.
Allez, coup de pub.
C'est l'association, c'est la Cigale dans la Fourmilière. Et donc, tous les ans, on fait le festival. On organise aussi des petits concerts. Ce sera peut-être l'occasion de faire des lives sur Antenne Doc, j'en sais rien.
Eh bien, pourquoi pas.
Et donc, elle a fait partie des personnes qui ont exposé les livres. Nous, en tant qu'association, on lui a pris l'ouvrage. Elle nous l'a gentiment dédicacé. Et donc, on le lit, on se le fait tous passer. Et en fait, oui, on se régale à lire quelque chose qu'on n'aurait pas du tout imaginé. Voilà.
Ok, bon, je pense qu'on en reparlera donc de ce joli festival que tu viens d'évoquer.
Ben, j'espère bien.
Et l'autre ouvrage.
Ensuite, alors là, c'est un cri du cœur, mais totalement différent. C'est La rencontre de Fanny Fornes. Fanny est psychologue qui a longtemps travaillé à la prison d'Agen, enfin autour de la prison d'Agen, où elle apportait un soutien psychologique aux résidents. Donc là, on a, c'est plutôt sur des rencontres de personnes en grande difficulté, de personnes qui vont souvent en prison, qui ont des problèmes avec la drogue, qui ont des problèmes avec leur famille, des parcours de vie qui sont très difficiles. Et elle a voulu leur rendre hommage et faire cet ouvrage, La Rencontre, qui est plus ou moins son point de vue, ce qui a touché dans la rencontre avec ces gens-là, ce qu'elle est ravie d'avoir apporté, ce que eux lui ont apporté. Elle dresse vraiment un portrait. On a un enchaînement de personnages. Alors, en tant que romancier, je trouve que c'est riche en imagination. Ça apporte. On pourrait prendre tous ces personnages et les mettre dans des romans noirs, des romans. Enfin, ce sont des personnages qui valent vraiment le coup qu'on se penche dessus. Moi, je sais qu'elle m'avait dit, j'espère que ça fera pas trop voyeuriste. Eh bien, je trouve pas du tout. Je trouve que c'est un très très bel hommage qu'elle rend à ces personnes qui sont oubliées, qui sont dans un malheur perpétuel, qui finissent mal pour certains. Et donc voilà, c'est la rencontre de Fanny Fornes.
Et si j'ai bien vu quand tu me l'as présenté tout à l'heure, c'est aussi quelque chose d'assez, un format assez court, non?
C'est oui, ça c'est un tout petit ouvrage aussi. Elle a certainement pas pu parler de toutes les rencontres et de toutes ces personnes à qui je pense qu'elle a voulu rendre hommage.
Et donc c'est sur un style plutôt journalistique, c'est non, des entretiens, c'est sociologique.
Non, pas du tout. C'est roman, c'est de la description de personnages, c'est beau, c'est bien, c'est non. On aurait presque l'impression qu'elle a créé tous ces personnages, que ce sont des personnages de fiction, sauf que ça se base sur la réalité. Voilà. Mais non, c'est magnifiquement écrit.
Eh bien, merci beaucoup, Pierrick, pour ce pas de côté par rapport à tes choix habituels. Et on va faire appel à ta voisine immédiate de droite, Geneviève, pour poursuivre ce Délivrez-moi sur Antenne Doc en janvier 2023. À toi, Geneviève.
Bonjour. Donc, je vais vous parler du livre de Giuliano d'Ampoli, Le mage du Kremlin. Alors, ce livre, moi, j'ai mis en dessous les poupées russes. Parce que je vais d'abord vous expliquer comment je l'ai perçu. C'est un livre donc qui est écrit quand même par Giuliano d'Ampoli, qui est quelqu'un qui a été conseiller de Mario Ranzi en Italie, qui est quelqu'un qui enseigne à Sciences Po. Mais j'avais retenu dans un entretien dans une revue ce qu'il disait sur le pouvoir suite à ce livre. Il disait que le pouvoir, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, que c'est quelque chose d'extrêmement rationnel. Le pouvoir ne fonctionne qu'avec l'irrationnel et le passionnel. Donc,
c'est rassurant.
Donc voilà. Et bon, on le savait un peu, je pense, quand même, quand on voit comment fonctionne un peu la sphère politique.
On garde nos petites illusions, qu'est-ce que tu veux.
Voilà. Mais oui, mais alors du coup, ce livre... Eh bien, il est beaucoup entaché de ça. Bon, moi, quand je l'ai lu, je l'avais pas encore entendu parler de ça, mais il m'a beaucoup plu, ce livre, par le propos qu'il traite. Alors, au départ, il traite de Poutine et de son parcours depuis le début des années 2000 jusqu'à nos jours. Enfin, nos jours. Le livre a été édité en 2021. Donc, avant quand même...
Avant la grosse bêtise.
Avant, oui. Pour lui, c'est sûrement pas la grande bêtise. Mais bon, voilà. Donc, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, bon, ce gars qui a été un conseiller politique, je pense qu'il a eu quand même des... Il avait une analyse sur ce parcours et c'est la manière dont il va nous parler de ce parcours qui est intéressant et dans lequel, lui, il a voulu faire pas seulement un récit d'expert, mais un récit tout court de ça. Donc, on est empêtré et en même temps... je dirais presque positivement au départ, de ses impressions plus humaines qu'il a sur ça. Donc il met en place un personnage qu'il appelle Vadim Baranov, qui est l'incarnation de Surkov, qui a été un conseiller de Poutine pendant des années, sur justement toutes ces années de l'apogée de Poutine depuis le départ. Et donc, c'est le double de ce Surkov. Et en même temps, ce nom, Vadim Baranov, est un nom qui a existé, mais d'un homme qui est déjà mort. Et c'est troublant. Au départ, on lit Et donc, c'est très troublant de voir. C'est pour ça que j'appelle ça les poupées russes, parce que il apparaît, tous ces personnages. Et donc, ce Surkov, qui était un conseiller de Poutine jusqu'au début de la guerre actuelle d'Ukraine, était considéré comme le cardinal gris, le Machiavel ou le Rasputin de Poutine. Alors, il fait de ce personnage ce qui semble être un peu le cas donc de Surkov, mais on ne le saura jamais vraiment. C'est qu'il en fait un personnage qui est issu de parents qui étaient des fonctionnaires vraiment très, très loyaux au régime à l'époque, au moment du communisme. Et puis, ce gars, son grand-père avait une bibliothèque, Surkov, dans laquelle ce jeune garçon qui s'ennuyait terriblement auprès de ses parents trouver un exutoire. Mais ce garçon, quand la fin du communisme est arrivée, il n'avait pas d'ambition particulière, il aimait la littérature ou les livres, mais c'est tout, et il fallait bien qu'il trouve quelque chose à faire. Et là, il avait dirigé la télé russe, et puis...
Donc le gars ne sait rien faire, il ne sait pas quoi faire, il dirige la télé.
Voilà, bon, voilà. Donc, voilà, parce que... Et en même temps, et il est fasciné effectivement par Poutine, il considère que Poutine est arrivé à un moment où les Russes, après la grande débauche de la période Eltsine, les gens étaient dans la grande souffrance et ils voulaient de l'ordre. Donc Poutine est arrivé au bon moment, il s'est présenté au bon moment. Donc il a eu une certaine fascination pour ce gars qui au départ avait une idée de remettre de l'ordre et qui progressivement, cette ambition est devenue l'ambition d'une grande Russie, donc de ne jamais permettre que ce qui s'est passé en Tchétchénie, c'est qu'un pays qui était un ancien pays de l'Union soviétique puisse décider par lui-même qu'il sera le... Bon, donc il parle de ça, et donc il suit... Alors, Surkov... Lui, il se met à distance. Il considère qu'il est à distance, que lui, le pouvoir ne l'intéresse pas. Et c'est l'homme Poutine qui va l'intéresser et il va servir cet homme. C'est-à-dire qu'il va le servir sans se poser la question s'il adhère ou pas à ses points de vue. Au début, on pense qu'il y adhère quand même, moi, quand je lis le livre. Hein, mais c'est mon point de vue. Et puis, progressivement, il y a toute la personnalité de Poutine qui se dévoile. Au départ, Poutine, c'est un peu un bouseux, entre guillemets, c'est-à-dire les yachts et les villas sur la Côte d'Azur, ça ne l'intéresse pas. Tout ça, ça ne l'intéresse pas. Avoir des tas de biens ne l'intéresse pas. Des jolies femmes, ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui est la vie charnelle ne l'intéresse pas. Et puis, progressivement, ce Vadim, là, qui est le double de Surkov, lui, il se retrouve, enfin, il sert ce type. Et en fait, il fait des choses, je ne rentrerai pas dans le détail, il va très loin dans la mise en place de process dans le fait de monter les gens contre les autres. C'est, je pense, il est à l'origine de manipulation à la fois dans le camp des pro-Poutine et à la fois dans les opposants. Et c'est ça qu'il se sert de techniques qu'il a apprises.
Machiavel, par exemple.
Voilà. Dans les techniques de théâtre à l'Actor Studio de New York, qui se sert de choses comme ça pour mettre en place des trucs. Donc, progressivement, jusque un peu avant la guerre, il est évincé. Évincé, c'est le mot, pas parce qu'il est dangereux, pas parce que il n'est plus fasciné, autant fasciné, c'est pas le mot, il n'était pas seulement fasciné. Il ne convient plus à Poutine. Bah,
qui... Peut-être parce qu'il a fait le boulot et puis qu'on en a plus
voilà,
besoin aussi.
Voilà, exactement ça. Et que Poutine, eh ben, et maintenant il a des villas, il a des palais, il a plein... Bon, voilà. Et progressivement, Poutine, sa parano s'aggrave. Donc, c'est aggravé au point que lui, il dit dans le livre d'Ampoli que le seul conseiller qu'il a, c'est son chien. En parlant de l'événement qui a été celui quand il a reçu Angela Merkel il y a quelques années, il savait qu'elle n'aimait pas les chiens et il l'a reçu avec son chien dans le bureau du Kremlin. Donc, et tout le monde pense que c'était pour lui faire peur.
On se rappelle aussi de l'entretien avec un certain Nicolas Sarkozy qui continue à tourner sur les réseaux. Oui. Et on se demande qu'est-ce qui s'est passé pour le voir dans un tel état.
Donc, voilà. Donc, c'est... Mais par rapport au chien, actuellement, il n'a confiance plus en personne. Donc, il s'est enfermé. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus parce que c'est dans le livre et je ne veux pas dire tout ce qu'il y a dans le livre. Alors moi, quand j'ai lu le livre, je me suis laissée embarquer dans cette prose littéraire tout à fait intéressante, avec cette manière de traiter ce personnage, ce Vadim. J'ai vraiment marché dans le propos de l'auteur avec une certaine jubilation, je le dis, parce que j'aime les livres quand ils sont bien écrits, et j'ai trouvé que c'était une manière de dire les choses. Puis quand on arrive à la fin du livre, on se rend compte que cet auteur, il s'identifie à ce Vadim. C'est-à-dire à la fin du livre, je ne vais pas raconter, la fin du livre est très différente. C'est ce Vadim qui se dévoile, comme s'il se dévoilait à l'auteur sur ce qu'il était, l'erreur qu'il a faite. Et puis, le reste, je ne veux pas aller plus loin, puisqu'il faut que les gens aient du suspense.
Et puis, il faut qu'ils aillent acheter des livres dans les librairies.
Exactement.
Et tout ça, ou qu'ils aillent dans les librétèques.
Alors, c'est un livre vraiment sur le pouvoir, sur la mécanique du pouvoir, ben, justement, l'irrationnel, le passionnel. Et c'est vrai que, moi, j'ai envie de dire, sur ce qu'il raconte sur l'irrationnel et le passionnel du pouvoir, on se dit que, moi, l'âge que j'ai, ça ne m'a pas surpris. On est bien conscient de ça. Mais on se rend compte que... C'est pour ça que je dis que ce livre, c'est les poupées russes. Parce qu'au départ, il y a ce mage, ce Vadim, qui est le double de Surkov. Il y a Poutine qui chapeaute tout. Et puis, au bout d'un moment, il y a l'auteur qui est vraiment très présent à la fin du livre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que j'avais un peu regardé, mais c'est vrai que j'étais un peu troublée par ce livre, la manière dont il était fait. Et ce matin, j'ouvre mes news et je tombe sur un article d'une nana du Monde qui parle de ce côté de la fascination des choses que je viens de dire là. Et j'ai trouvé que ça m'a rassurée. Je me suis dit,
tu pourrais écrire dans le Monde, en fait.
Non. Mais tu peux pas. Non. Je crois que je suis un peu tard là. Mais bon, voilà. Et ça m'a un peu confortée dans ça. Bon, moi, c'est vrai que j'avais pensé aux poupées russes. Vraiment, j'ai l'emboîtement des choses dans ce livre.
Mais ça ne fait pas de mal d'être conforté. On va continuer avec un peu de musique. On m'a fait découvrir ça pendant mon séjour en Espagne en fin d'année. Ça vient de Colombie. Bah, je vous laisse vous faire une idée par vous-même. Ça réchauffe.
Sabroso. Soy guajiro, guajiro, guajiro del monte.
Guajiro, guajiro.
Soy guajiro, guajiro, guajiro del monte.
Oiga de rumba y de son.
Yo soy guajiro.
Todo lo que hago lo hago por lo mío. Yo no hablo, no digo ni pío. Bueno, no gringo, México lindo. Tremendo tipo, mojito rico. Pirata del Caribe, Cuba libre. Con la amenaza, el infante terrible. Dicen por la raza, por los tigres. A la noche van a ser de alto calibre. Chico, flaco, cheque, mama, rico.
puro vacina, fiel. Escribo en el Sena, pinito, queso, parí bohemia, aunque estaba tieso. Cada uno tiene un don, yo verte el habla. Esa no es familiar, Carmen Maura. Hace mucho ya que dejé la jaula. Los niños están poniendo mi nombre en el aula, Guajiro.
C'était le Guajiro de Ajax et Proc qui, contrairement à ce que j'ai dit avant, viennent d'Espagne et non pas de Colombie. La Colombie, ça sera pour un peu après. Nous avons aussi la chance d'avoir en ce numéro de, de janvier 2023 la présence de deux libraires de Cahors. Et Sarah et Nathalie. Sarah, peut-être, va démarrer en même temps, va vérifier qu'on a réussi à réparer son micro. Sarah, m'entends-tu ?
Moi, j'entends.
Et
oui,
c'est parfait, elle nous entend, okay. On l'entend. Eh bien, à toi la parole.
Alors bonjour à tous, moi je voulais vous présenter en cette rentrée littéraire, parce qu'il y en a deux par an, hein. On s'en sort jamais finalement, il y a toujours des choses à lire.
Bah, ça veut dire qu'on a un pays qui aime lire aussi peut-être.
C'est pas pour nous déplaire non plus. Le nouveau titre de Marie-Hélène Lafon qui est publié aux éditions Buchet-Chastel et qui s'appelle Les Sources, donc il vient de paraître. Donc une fois de plus, on retrouve le Cantal comme décor romanesque. Je dis encore une fois parce que je ne sais pas si vous le savez, mais donc l'autrice y est née et elle mentionne aussi beaucoup la Santoire, qui est la rivière principale du département. Donc c'est une histoire familiale qui se passe dans les années 60, une histoire rurale, une ferme, trois beaux enfants. Donc jusqu'ici, tout va bien.
Ça va dégénérer, je le sens.
Bah, disons qu'il y a forcément quelque chose qui tourne par rond. On s'en rend compte assez rapidement, mais on ne sait pas bien quoi, parce que ce n'est jamais clairement dit avec Marie-Hélène Lafon. On tourne un peu autour du pot, comme ça. Donc voilà, ils ont trois enfants, puisque c'est la narratrice qui nous parle. Donc il y a Isabelle, Claire et Gilles. Et même la narratrice, en fait, n'est pas nommée. C'est la seule dans le livre, avec son mari, à ne pas avoir de prénom. Donc elle a eu trois enfants en cinq ans, ça laisse des marques, ça fait des plis. Il est beaucoup, beaucoup question du corps dans ses romans à l'autrice et encore plus dans celui-ci. Donc ça parle des corps fatigués, des corps lourds, des corps vides. Et la femme qui nous raconte cette histoire est mariée depuis 8 ans à cet homme. Donc ils ont une ferme, ils sont propriétaires depuis 4 ans. Elle a signé 2 fois. Donc ses enfants ont 7, 5 et 4 ans. Et d'ailleurs les chiffres reviennent très souvent, comme un mantra, comme une espèce de ronde et comme une comptine qui viendrait la rassurer un petit peu, puisqu'on se contente aussi beaucoup des titres. Donc voilà, elle est propriétaire, elle est mère, elle a un rôle à jouer dans cette ferme. C'est un rôle qu'elle connaît par cœur. Il y a toujours la précision des gestes aussi. C'est toujours les mêmes qu'on exécute tous les matins, aux mêmes heures, etc. Sauf qu'elle est fatiguée. Elle est terriblement fatiguée. Et donc, comme je vous disais, on sent quelque chose qui ne va pas, puisque c'est une femme qui est victime de violences conjugales. On en parle beaucoup maintenant, on en parlait très peu avant. Là, c'est dans les années 60, c'est dans le milieu paysan. Donc c'est vrai qu'il y a un vocabulaire aussi qui fait partie de la vie. Elle se souvient très rapidement que les coups ont commencé, enfin qu'il s'est déchaîné, comme elle dit, 15 jours seulement après leur mariage.
Ça fait pas beaucoup.
Ça fait pas beaucoup, c'est le minimum syndical. Mais bon, comme il disait, donc elle s'est pris une dérouillée, une rouste. Parce qu'il y a tout un vocabulaire.
Avant, on disait femme battue, puis c'est tout.
Ouais, mais bon, après, une rouste, une dérouillée, enfin, c'était valable pour les enfants, pour les femmes, et bon, certainement qu'ils l'avaient bien mérité, d'ailleurs, hein, puisque...
Si tu le dis.
Ça fait partie de ce qui se disait aussi beaucoup, et ce qui se dit malheureusement encore maintenant. Donc, on va la suivre. Ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'elle sait qu'elle doit partir. Elle le sait depuis le début. Elle regrette de s'être mariée. Elle regrette d'avoir signé pour cette ferme, mais quelque part, c'est un petit peu ce qui lui appartient. Elle a la moitié de cette ferme. Les enfants, elle les a élevés avec beaucoup d'amour, mais elle a peur pour elle, donc elle veut se sauver elle-même et sauver ses enfants. Donc là, quand je dis que rien n'est dit, c'est qu'on n'assiste pas à des scènes de violence. Sais-tu, elle a peur de lui. On sent la peur qui monte, mais dans son ventre. Hein. Vraiment, c'est très insidieux. On est spectateur de ça et on n'y assiste jamais vraiment. Et je pense qu'il y a des choses aussi qui ne sont pas dites, parce qu'à un moment donné, donc, elle a deux filles et le dernier, c'est un petit garçon. Et elle dit qu'elle est contente que ce soit un petit garçon. Donc, on ne sait pas non plus s'il y a des violences sexuelles derrière. Mais en tout cas, tout ce qu'elle sait, c'est qu'il faut qu'elle s'en aille. Sauf qu'encore une fois, partir, ça veut dire divorcer. Divorcer, dans ces années-là, c'est un fiasco total. D'ailleurs, il y a la femme qui a divorcé dans le village, qu'on appelle la Marissou. Et c'est devenu un nom commun. Tu vas devenir une Marissou. Les enfants en perdition. Enfin, voilà, ça ne se faisait absolument pas. Et donc, la temporalité dans ce livre est très importante parce qu'on est au moment où elle décide, où elle ressasse comme ça. Donc, au début du roman, au milieu du roman, elle décide de dire la vérité puisque tous les dimanches, ils se rendent chez les beaux-parents respectifs. Donc, il y a toute la préparation, c'est toujours les mêmes rituels. Elle connaît toutes ces petites manies qui l'agacent profondément. On sent la haine, en fait, de son mari... venir petit à petit comme ça. Et c'est le jour où elle va révéler à sa mère qu'elle est battue. Et donc ensuite, on a le point de vue de ce mari, resté seul puisqu'elle aura décidé de le quitter. Et c'est assez intéressant d'avoir son ressenti à lui. On ne voit aucune remise en question. On voit simplement les faits, de voir les enfants grandir, de comment il va faire pour payer les crédits, et puis comment il s'en sort lui financièrement. Et de toute façon, ça a toujours été une incapable. Elle n'était même pas... des fois, elle laissait traîner la vaisselle sale pendant des heures et ça l'agaçait profondément. Et puis bon, il la frappait, mais en même temps... elle le méritait un petit peu, quelque part. Et donc, c'est assez fort de lire aussi ces quelques pages, parce qu'on n'a pas beaucoup de visibilité sur ce qu'il pense, lui, mais sur comment lui a ressenti les choses. Et la dernière partie du livre, c'est une des filles, celle du milieu, Claire, qui a grandi, qui est devant la maison. Donc, il y a une question d'héritage. On sent qu'elle doit retourner dans cette maison, mais qu'elle n'arrive pas à y retourner. Parce qu'elle a vu, elle a entendu trop de choses. Et le seul petit bémol que je puisse donner à ce livre, c'est qu'on aurait bien aimé savoir comment ça s'était passé pour elle, comment ont grandi les enfants, puisqu'apparemment, elle est retournée habiter chez sa mère vers Aurillac. Et ça aurait été intéressant de voir comment la vie avait repris ses droits et évidemment qu'elle avait fait le bon choix. Enfin, en tout cas, c'est un très, très beau livre. Et je le recommande.
D'accord. Bon, bah, c'est pas forcément Prime Sautier, mais bon. En tout cas, ça a l'air profond. Alors, je vous avais parlé de Colombie. Et bien, avant de retrouver Nathalie Caligram, on va continuer par un petit passage en Colombie. Donc on est revenu plus vers l'Est avec Pravda et ce vieux titre « Tu es à l'Ouest » que personnellement j'affectionne beaucoup. Je vous retrouverai la Colombie et le morceau Fuego pour une prochaine émission. C'est promis dans une version qui sera propre. Nathalie va conclure ce Délivrez-moi de janvier. Nathalie, c'est donc aussi la librairie Calligram. Et j'ai oublié de dire que Sarah, c'était la librairie La Fourmi Rouge. Voilà, on a plusieurs bonnes librairies à Cahors et on est heureux qu'elles puissent participer à cette émission et la faire avec nous. À toi la parole, Nathalie.
Merci, bonjour tout le monde. Donc, en fait, c'est une nouveauté, mais une nouveauté poche. Ça s'appelle « Aussi riche que le roi », c'est d'Abigail Assor. C'est sorti chez Gallimard en 2021. Et ça vient de sortir il y a un mois chez Folio. Voilà, donc, alors je l'ai choisi entre autres parce que, bien évidemment, c'est un coup de foudre, mais aussi parce que c'est un premier roman.
Donc, c'est pas tout neuf, mais c'est quand même assez récent.
Oui, c'est quand même assez récent. Donc, Abigail Assor, elle a toute petite trentaine d'années. Elle vient de Casablanca et elle nous conte l'histoire de Sarah. Sarah qui n'a rien, qui joue de son corps, qui est capable de passer une après-midi avec un jeune homme simplement pour avoir un repas dans le restaurant des jeunes huppés du lycée français. Et elle va rencontrer Driss. Et on dit que Driss est aussi riche que le roi. Et commence alors, en fait, sa quête. Et évidemment,
c'est au Maroc, oui, oui.
Oui, oui, c'est au Maroc, à Casablanca, dans les années 90. Et Sarah va vouloir le séduire. Et elle va vouloir l'épouser. Donc, ça ne commence pas vraiment comme une histoire d'amour, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, on va aussi du coup découvrir Casablanca, puisque la course vers Driss, c'est aussi un chemin à travers cette ville. Donc, avec des riches qui prennent toute la place, avec des prostituées qui avortent dans les arrière-boutiques. Et puis, ces villas aussi immenses, avec des bonnes, des jardiniers, des piscines. Sarah est belle, Driss est laid. Driss est complètement mutique, incapable de communiquer avec qui que ce soit. En revanche, il y a du boulot. Ce que l'on sait, c'est que ses yeux sont beaux. Ils ont la couleur du thym, quand ils fondent dans la tagine. C'est donc une écriture magnifique, très poétique. C'est un roman solaire, un roman cruel. Alors, étonnamment, c'est aussi une histoire d'amour, ce qui n'aurait dû être qu'une histoire sordide. Devient petit à petit la rencontre de deux solitudes. Celle de Sarah, donc qui est perclue de misère et qui est perclue d'envie de pouvoir et d'argent. Et puis la solitude de Driss, donc ce jeune homme qui vient d'une magnifique famille, en tout cas très riche, et qui finalement va trouver chez Sarah ce qu'il n'a pas. C'est-à-dire ce formidable envie de vivre, la fraîcheur et la beauté. Alors, ils n'ont malheureusement pas compris le carcan et la violence de la société qui les entoure. Alors, ils vont un instant croire qu'ils vont pouvoir vivre. Alors, est-ce que c'est une histoire d'amour ? En tout cas, c'est une histoire de rencontre. Seulement, la problématique, c'est que les règles du jeu, c'est les riches qui les décident. Et du coup, Sarah ne va pas pouvoir jouer très longtemps.
Dommage.
Dommage. Absolument. Pour ceux qui ont aimé Le pays des autres de Leïla Slimani, voilà, et qui était aussi un magnifique bouquin. Donc voilà, Assor va dépeindre sans concession ce Maroc à la fois des bidonvilles et des villas de riches. Superbe.
Et j'ai entendu comme des volontés, des velléités de commentaires sur Leïla Slimani. Je ne veux pas censurer.
Non, je pense que toutes les deux, avec Geneviève, on était assez d'accord. Donc, on a dû le lire. Mais en tout cas, ça donne envie.
On l'a lu, oui.
Ça donne envie.
OK. Bon, on a le temps, à la limite.
On a le temps.
Alors, je dis ça, chers auditeurs, parce que pour que vous sachiez tout, on peut en faire un, on peut en faire deux. Alors, Pierrick, il en avait deux, c'est sûr, et c'était assez bref. Et puis, Nathalie, elle en avait un autre en réserve, et manifestement, ben oui, je vous le dis, on a le temps, donc Nathalie.
Rapidement,
tu peux.
Oui, encore un poche, parce que, alors, c'est aussi encore une sortie poche. C'est True Story. Qui est sorti chez Gallmeister.
Donc True en anglais.
Exactement. Et t'as reconnu mon accent, j'espère.
Oh ben ouais. Vous savez, il y a un journal dans la Corée. Je fais une petite digression qui s'appelle La Trousse.
Tu veux que je te donne en plus? Pardon. Je vais te donner après. Tu vas voir le nom de l'auteur en américain. Tu vas aimer, je pense.
Mais je pense que tu vas aimer aussi le nom du journal corésien qui s'appelle donc La Trousse. T-R-O-U 2-S-E, mais qui fait bien référence à la truffe. avec mon accent. Je t'en prie, reprenons le film.
Alors, tu vas m'aider là. Donc, tu vas m'aider à dire le nom de l'auteur. Donc, Sarah, en plus, compatit énormément avec moi. Donc, le nom de l'auteur, c'est Kate Reid Peattie.
C'est ça.
T'as aimé ?
Il n'y a pas, y a pas okay. photo.
Donc, en Gallmeister en poche, ça s'appelle Totem. Grosso modo, c'est exactement la même chose. C'est le prix qui change. C'est quand même assez intéressant, surtout au mois de janvier. Alors, True Story, c'est encore un premier roman d'une jeune américaine. Et ça parle d'une chose assez passionnante qu'on appelle la rumeur. C'est-à-dire, en fait, comment les gens vont s'emparer d'une histoire qui est vraie ou qui n'est pas vraie. Et il y a toute une construction autour de cette rumeur, sachant que cette rumeur est absolument glaçante, puisque, en fait, l'on ne sait pas, et elle ne le sait pas non plus, si Alice a été ou pas violée un soir de bal quand elle était au lycée. Ce qu'elle sait, c'est qu'elle est rentrée chez elle, qu'on l'a ramenée dans une voiture, et qu'elle était ivre. Et ensuite, donc, le roman commence. Alors, ça n'est pas qu'une histoire, entre guillemets, de viol. C'est surtout comment on va être imprégné de cette histoire, comment elle-même, d'ailleurs, va être imprégnée, comment les deux gamins qui ont lancé la rumeur vont être imprégnés, les amis. Et donc, cette histoire va être racontée à la fois par la narratrice, qui est la jeune femme qui a été ou pas violée. Elle va aussi être racontée par les voleurs. Ce qui est extraordinaire dans ce roman, c'est que c'est un véritable puzzle et qu'il y a des styles totalement différents.
Alors, tu as dit ça se passait aux
États-Unis. Ça se passe aux États-Unis, dans les années 2000, dans une fac quelconque.
Dans une fac, d'accord.
Dans un milieu quand même plutôt huppé, mais pas tant que ça non plus. En fait, sociologiquement parlant, c'est pas très... un peu flou, mais on s'en fiche un peu, en l'occurrence. Autant dans Aussi riche que le roi, c'était super important. Autant là, c'est pas le sujet.
Et on n'est pas non plus chez les petits blancs du fin fond de l'Arizona. On est à la fac.
Okay. Ouais, exactement. On est à la fac. Et surtout, ça commence finalement comme plutôt un roman de fac, un roman de jeunes avec des soirées, un club de sport. Et là, on retrouve les films américains. Bon, rien de nouveau sous le soleil. Et progressivement, on va même à un moment donné être carrément dans un véritable film d'horreur, puisqu'il y a un des gamins qui est protagoniste, qui est un des meilleurs amis de ceux qui ont peut-être ou pas violé. Et qui, lui, va se retrouver un week-end en train de boire et du coup de vivre une sorte de film d'horreur absolument infernal. Donc, c'est très, très, très particulier comme construction. Ça va s'imbriquer progressivement. Ça ne se lâche pas. C'est Nuit Blanche. C'est super bien foutu et c'est un premier roman. Donc, c'est quand même aussi... c'est assez bluffant. Et surtout, en fait... Est-ce que la rumeur ou pas va être vraie ?
Est-ce que c'est la vraie histoire ?
Est-ce que c'est la vraie histoire ? Ouais.
Ok. Eh bien, merci infiniment à vous tous. Et puis alors on t'entend très mal forcément Geneviève, puisque ton micro est passé à Sarah. On vous dit tout, on a eu un petit problème de micro, donc elles ont partagé, voilà, parce qu'ils sont bien nos invités, nos chroniqueurs. On vous remercie et puis on vous dit peut-être au mois prochain si vous le pouvez. Et puis sinon on retrouvera peut-être Ingrid, Bill. Ah oui, on allait oublier, on doit vous faire une annonce, puisque cette semaine il y a des événements autour de la littérature dans les médiathèques. Et par exemple, il y a, je crois, la nuit de la lecture, c'est ça ?
Alors, la nuit de la lecture, tu fais quoi, toi ?
Alors moi, la nuit de la lecture, ça commence... donc, c'est les médiathèques, oui, t'as raison, mais ce sont aussi les librairies. D'accord. Donc, en fait, c'est national. Moi, c'est 20h30, c'est le samedi. Et donc, on va écouter Mathilde Raison nous raconter des histoires.
Oui, c'est autour de la thématique de la peur. Je ne sais pas si on m'entend bien.
Si, on t'entend. Pas forcément bien, mais on t'entend.
D'accord. Et nous,
ça va mieux là,
on va plutôt faire un petit événement pour les petits qui aura lieu samedi après-midi à 16h30 parce qu'on fait un goûter lecture autour de la thématique de la peur et on a fait un concours de dessin. Donc voilà, les enfants ont jusqu'à samedi pour nous envoyer leurs dessins.
Cette émission étant rediffusée,
et oui,
nous sommes
donc ce sera trop tard.
Le 17. Non, ça ne sera pas trop tard, mais ça sera trop tard peut-être pour les futures rediffusions. Celle de vendredi, ça devrait aller. Donc on est aujourd'hui jour de réalisation de cette émission le 17 janvier. Donc le samedi, on sera le 21 janvier. Voilà, pour vous situer.
Exactement.
Et donc, vous parliez de la médiathèque de Cahors, parce que, comme vous savez, nous sommes écoutés dans le monde entier, et les gens se disent « Quelle médiathèque ?» celle de Cahors, bien sûr.
Donc, en bref, l'après-midi avec vos enfants à la Fourmi Rouge, et le soir tout seul, pas avec les enfants, parce qu'on va picoler un petit coup,
ouais,
Calligramme. Donc, du coup, la nuit de la lecture, c'est toute la journée à Cahors, grâce à vos deux librairies.
Et sans modération, hein, c'est ce qu'on dit.
Et sans modération.
Ou le contraire, pour faire des adultes lecteurs un peu décalés, quoi.
C'est ça. Et les enfants sortent le soir et les parents vont au lit.
Pourquoi pas. Merci à vous. Et puis, chers auditeurs, restez bien entendu sur Antenne Doc. Vous y êtes bien. On se donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien. Et on se quitte avec notre générique. Délivrez-moi, l'émission littéraire d'Antenne Doc, diffusée également sur Décibel FM.